Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau voyage à travers les arts et les époques. Et pour ce nouveau voyage, c'est Monsieur Jacques Descourtil que nous recevons ce soir, avec plaisir, assurément. Oui.
Ah oui. Ah bon. Tout le plaisir est pour moi. De toute façon, je n'ai pas eu le choix. Hein. C'est... J'ai pas été invité, j'ai été convoqué.
Écoutez, il s'est invité tout seul. Hein. Alors, il est quand même agrégé de lettres classiques et il assume le dire, vous comprenez. Donc j'ai dit oui, parce qu'il fallait quand même que je dise oui. Il est également professeur d'histoire de l'art antique et d'archéologie. Non, docteur d'histoire antique et d'archéologie. Il est en plus professeur des antiquités grecques et romaines. C'est l'inverse. Hein. À l'université Bordeaux-Trois-Montagnes.
Non, mais c'est vrai que les Grecs, c'était avant les Romains.
Oui, c'est ça. Oui. Mais croyez, je ne vais pas y arriver ce soir.
Hein. Et ça sera de ma faute.
Il est insupportable. C'est mon ami, mais quand même. Il est membre de l'École française d'Athènes et également, il a été élu, oui, en 2009 à l'Institut universitaire de France. Il a conduit de nombreuses fouilles en Turquie et en, je ne sais plus où.
En Grèce.
Et en Grèce, c'est ça. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le Grand Prix d'archéologie de Simone et Sino del Duca. Il a publié des ouvrages et dont il a conduit un ouvrage absolument extraordinaire qui s'appelle « L'architecture monumentale grecque au IIIe siècle avant Jésus-Christ ». Et ce soir, pour ce nouveau voyage, puisque nous allons aller assez loin, il va nous parler, Monsieur Descourtil, des sarcophages de Sidon, de l'énigme, pardon. Jacques, merci beaucoup d'être là ce soir. Nous sommes très contents de t'accueillir.
Aussi, moi aussi, en réalité.
Ah ben voilà. Merci.
Bien déguisé en martien, ça fait un drôle d'effet, mais je vais essayer de rester sérieux. Ah non, il ne faut pas la baisser, parce que sinon, ça va ? Vous m'entendez ? C'est dommage. Bien. Alors effectivement, je vais essayer de déployer quelques aspects d'un mystère qui est en partie éclairci, mais qui reste quand même une question posée dans l'histoire de l'art. Et cette enquête va, comme vous allez le constater, nous promener d'abord assez loin d'ici, en Phénicie, et puis après dans quelques autres régions du monde méditerranéen oriental. Alors l'histoire commence à Sidon, donc aujourd'hui Saïda, ville qui fait malheureusement pour elle beaucoup, beaucoup parler d'elle, et où on cherche en vain les vestiges antiques sous le béton moderne, comme c'est souvent le cas. Mais cette antique Saïda était, comme vous le savez, une des grandes villes de la Phénicie, et elle est nommée souvent dans la Bible, notamment dans les psaumes, avec sa voisine Tyr, T-Y-R, comme vous savez. Ce sont les deux plus grandes villes de la Phénicie antique, qui sont donc sur la côte syro-libanaise, ici, et la troisième, c'est Beyrouth, hein, Berytos dans l'Antiquité, qui étaient toutes trois des ports marchands extrêmement actifs. Les Phéniciens étaient des grands commerçants, et ils avaient eu la chance d'être au contact avec les inventeurs de la métallurgie. Et à partir de la fin de ce qu'on appelle l'âge du bronze, la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ils ont commencé à sillonner la mer Méditerranée pour aller chercher du métal là où on trouvait du minerai. Ils sont donc allés visiter un peu toute la Méditerranée et ils sont allés jusqu'au détroit de Gibraltar, ils sont même allés au-delà, jusqu'à l'embouchure du Guadalquivir, où ils ont fondé une ville, ils sont allés au Maroc, et ils ont fondé, au passage, des colonies, notamment la fameuse colonie de Carthage, à côté de Tunis. Donc ces grands navigateurs avaient une civilisation qui s'est développée dans un pays de dimension modeste, qui est à peu près l'équivalent du Liban actuel, hein, ce n'est pas exactement les mêmes frontières, il débordait sur la Syrie actuelle. Donc un pays de dimension modeste, mais qui avait le bénéfice extraordinaire de se trouver en contact de la Méditerranée d'un côté et des grandes civilisations du Proche-Orient antique de l'autre côté, c'est-à-dire en contact avec les Babyloniens au début, ensuite les Assyriens, puis l'Empire perse, dont nous allons beaucoup parler ce soir, Empire perse qui a été fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui sera détruit deux siècles plus tard par Alexandre le Grand. Alors, de ces Phéniciens, nous connaissons beaucoup de choses. Nous leur devons beaucoup aussi, puisque notre alphabet vient indirectement des Phéniciens. Vous savez en effet que le mot alphabet est composé des deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta, mais ces deux premières lettres de l'alphabet grec sont elles-mêmes les deux premières lettres des alphabets sémitiques, aleph et bet. Et donc, lorsque les Grecs ont appris à écrire, c'était à l'école des Phéniciens, ils ont emprunté l'alphabet phénicien, et nous n'avons fait que reprendre l'alphabet des Grecs, donc par le biais des Romains. Donc nous sommes tous tributaires de cette civilisation phénicienne qui, dans le domaine de l'art, puisqu'il paraît qu'ici on doit s'intéresser à l'art, moi ça ne m'a jamais beaucoup attiré, mais enfin, je me force, dans le domaine de l'art, les Phéniciens ont donné des petits objets essentiellement, de l'orfèvrerie et des ivoires. Et puis, d'autres choses que nous allons voir ce soir. Alors, au XIXe siècle, un drogman, c'est-à-dire un interprète du consulat de France à Beyrouth ou à Damas, je ne sais plus, en se promenant à Saïda, donc à l'antique Sidon, a acheté un sarcophage qu'il a vendu à un collectionneur français qui en a fait don. Enfin, pas lui, mais ses descendants, en 1967, la donation au Boisgelin, au musée du Louvre. Ce sarcophage avait été découvert donc, en 1855 par un paysan en creusant dans son jardin. Il avait découvert une sorte de puits, et au fond du puits, il y avait un sarcophage en pierre noire, en amphibolite, c'est une pierre volcanique. Sarcophage de toute évidence égyptien, avec des inscriptions égyptiennes, celle que vous voyez n'est pas égyptienne, qui était tout à fait surprenant. Et donc ce sarcophage est maintenant exposé au musée du Louvre. Et sur le devant du sarcophage, sur le corps, si l'on peut dire, qui est le couvercle, il y a une longue inscription phénicienne qui permet de comprendre que en fait, c'est un sarcophage égyptien qui a été réutilisé pour un roi de Sidon qui s'appelait Eshmounazor II, et qui a régné au début du Ve siècle avant Jésus-Christ, qui, pour une raison qu'on ignore, a été donc hébergé pour le restant de ses jours dans ce sarcophage égyptien, trouvaille un petit peu surprenante, mais qui, comme vous allez le voir, a eu une suite. Alors la suite fait intervenir un haut personnage de l'Empire ottoman de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il s'agit de Osman Hamdi Bey, qui était le fils du grand vizir de l'époque, et qui, comme c'était le cas de la haute société istanbouliote du XIXe siècle et de beaucoup d'autres pays d'ailleurs à l'époque, avait été élevé dans la culture française. Il a fait des études de droit à Istanbul et puis il est venu à Paris pour compléter ses études. Mais beaucoup de parents parmi vous comprendront l'histoire. Il n'était plus donc chez ses parents et sous prétexte de faire des études de droit, en fait, il faisait tout à fait autre chose. Il faisait des études de peinture. C'était sa grande passion. Il a été l'élève de Jérôme et il est devenu un grand peintre. C'était l'époque du style pompier. Et donc, je me suis fait un plaisir de vous présenter ici trois de ses tableaux qui sont conservés en Turquie aujourd'hui, naturellement, mais qui vous donnent une idée du style de ce personnage. Alors, il ne s'est pas contenté d'être peintre. Il a également travaillé dans l'administration de ce qu'on appellerait aujourd'hui le ministère de la Culture. Ce n'était pas tout à fait ça. Et il a été chargé par le sultan Abdulhamid de construire un musée pour abriter les pièces archéologiques qui étaient conservées dans les collections du sultan. Ce détail est intéressant parce que dans un pays qui est toujours très musulman et qui, a priori, ne s'intéresse pas, pour des raisons religieuses, aux autres cultures, il y avait à cette époque-là donc, un sultan qui était capable de s'intéresser à des cultures qui n'étaient pas musulmanes, et notamment la culture gréco-romaine. Et comme il y avait beaucoup d'objets, eh bien, il a fait construire un musée, c'est lui aussi, ce sultan, qui a transformé à l'époque la mosquée de Sainte-Sophie en musée, hein, ce qui était tout de même un acte très courageux et même révolutionnaire. Alors, vous voyez Hamdi Bey, qui est donc chargé de fonctions importantes, un proche du sultan. Et puis, l'histoire qui suit est racontée par, du moins le début, est racontée par Hamdi Bey lui-même, et je vous en donne lecture brièvement. Au commencement de l'année 1887, le nommé Mehmet Sherif Efendi, propriétaire d'un terrain connu sous le nom de Aya, et situé aux environs de Saïda, l'ancienne Sidon, entreprit, en vertu d'un permis délivré par l'autorité locale, certains travaux dans sa propriété à l'effet d'extraire des pierres à bâtir. Le 2 mars 1887, Mehmet Sherif Efendi, se conformant à la loi sur les antiquités, vint avertir le kaimakam de Saïda, c'est-à-dire le maire, Sadit Bey, qu'il avait découvert un puits au fond duquel il pouvait y avoir des tombeaux. Ce n'était pas la première fois qu'on en trouvait à Saïda. Le kaimakam se rendit au lendemain sur le lieu de la découverte pour constater l'exactitude de cette information. Là, il aperçut, à fleur de terre, sur la paroi orientale du puits, un trou par lequel apparaissait l'intérieur d'un caveau contenant 2 sarcophages, dont l'un était orné de sculptures. Il s'empressa de porter ce fait à la connaissance du gouverneur général de la Syrie, Nashid Bacha, ainsi que du Moutessarif de Beyrouth, Nasoudi Bey, et confia le puits à la garde d'Essav Effendi, officier dans la gendarmerie de Saïda. Vous voyez que tout cela est fait tout à fait dans les normes de la légalité. Le kaimakam ne tarda pas à recevoir l'ordre de débarrasser le puits d'une grande quantité de terre qui l'obstruait encore pour voir s'il ne contenait pas, par aventure, d'autres caveaux. Dans le cours de cette opération, Sadiq Bey découvrit en effet l'entrée de 2 autres chambres funéraires s'ouvrant l'une au sud, l'autre au nord, et qui contenaient aussi des sarcophages. Nashid Pacha, averti immédiatement par le télégraphe, fit suspendre les travaux jusqu'à l'arrivée de Béchara Effendi, ingénieur en chef du vilayet, qu'il envoya pour les reprendre et les diriger. Le 15 mars, Béchara Effendi arrivait à Saïda et ouvrait l'un après l'autre une série de 7 caveaux qui tous contenaient des sarcophages. Il rédigea à la hâte un rapport accompagné de quelques plans et profils qu'il adressa à la date du 24 mars à Nashid Pacha pour être communiqué au ministère de l'Instruction publique à Constantinople. C'est un Turc qui écrit, mais il écrit Constantinople et non pas Istanbul. C'est à la suite du rapport de Béchara Effendi que Sa Majesté impériale le Sultan, dont la sollicitude pour son musée est si grande, m'a confié, c'est Osman Hamdi Bey qui parle, m'a confié la mission d'aller à Saïda pour procéder à l'extraction des précieux monuments qu'on venait d'y découvrir, les faire transporter sur un bâtiment de l'État à Constantinople et exécuter, s'il y avait lieu, d'autres fouilles au même endroit. Voilà donc le début du récit. Je vous passe la suite, mais nous allons aller tout de suite voir les pièces qui ont été découvertes donc en 1887. Pour la petite histoire, je vous signale que en fait, le maire de Saïda a été prévenu, non pas par le paysan qui avait découvert cela, mais par la sublime porte, hein, par le gouvernement du sultan, parce que en fait, quelques jours avant, un Britannique qui se trouvait à Saïda a eu vent de cette découverte avant tout le monde. Et il a immédiatement télégraphié à son père, qui était à Londres, et qui connaissait des journalistes. On ne disait pas journaliste à l'époque. Et donc la nouvelle est apparue le lendemain dans le Times de Londres, et avec un article disant, voilà, on a fait une découverte extraordinaire à Saïda, et il faudrait absolument envoyer des archéologues européens pour que ces découvertes extraordinaires ne tombent pas dans les mains de ces vandales turcs. Alors, quand un ministre du sultan a lu ça dans le Times, il s'est précipité aux genoux de Sa Majesté impériale en lui disant, voilà, il faut faire quelque chose avant les Britanniques. Et l'histoire continue. Alors, voici une coupe, un dessin de ce tombeau, n'est-ce pas ? Je ne vais pas l'étudier en détail, mais vous avez donc ici une coupe sur le puits. Et vous voyez se développer à l'horizontale, à droite et à gauche, des chambres funéraires et que vous retrouvez ici sur le plan. Alors, pour extraire les sarcophages, vous allez voir, ce sont des sarcophages dont chacun pèse plusieurs tonnes. Il a fallu faire venir un ingénieur et quelques ouvriers. On ne pouvait pas en mettre beaucoup puisque les caveaux étaient assez réduits. Et ce qui avait été certainement un exploit de descendre ces sarcophages au fond de ce puits a été encore plus difficile pour l'extraction, qui s'est faite en perçant une galerie que vous voyez ici et qui est en plan incliné. et sur laquelle on a, dans laquelle on a disposé des rouleaux de bois, des rails, et on a fait glisser les sarcophages au moyen de cordages et en les tirant centimètre par centimètre. L'opération a été faite en quelques semaines. Ça a été admirablement bien fait. Voici un dessin de l'époque montrant l'extraction de l'un de ces sarcophages, ce qui a été un petit exploit. Et donc, ils ont été transportés par bateau au musée d'Istanbul, musée qui était à l'époque en cours de construction. C'est un ingénieur d'origine probablement française, qui s'appelait Valori, d'une famille de Levantins, c'est-à-dire une famille d'Européens installés en Turquie depuis plusieurs générations, qui était l'architecte de ce magnifique musée, qui est construit en style néo-antique, puisque ce sont des imitations de monuments antiques. Valori a été également le constructeur du café Le Bon, qui était sur la grande avenue d'Istanbul, qui s'appelle maintenant le café Marquise, et qui est un des plus beaux bâtiments du XIXe siècle de la ville d'Istanbul. Alors, comme le musée était en construction au moment de la découverte, on a pu modifier les plans et les salles qui sont au rez-de-chaussée à gauche, vous pouvez entrer, vous trouverez tout de suite, ont été donc entièrement aménagées pour recevoir ces sarcophages. Alors ces sarcophages, en voici un premier aperçu, ils étaient au nombre de 10, il y a, 11, il y a 4 sarcophages anthropoïdes, c'est-à-dire à forme humaine, ébauche de forme humaine, et comme nous allons le voir, 7 autres sarcophages qui sont, eux, des sarcophages architecturaux. Alors, je vais vous faire faire un rapide tour de ces sarcophages, et puis après, nous les regarderons de plus près. Donc, voici les sarcophages anthropoïdes, enfin, 3 sur les 4 qui sont conservés. Voici maintenant un premier sarcophage architectural. Je vous les montre rapidement et j'ai pris ici pour les illustrer les gravures, enfin les dessins, les photographies d'ailleurs, qui ont été publiées en 1895 par Hamdi Bey et un archéologue français. Alors ce premier sarcophage, que vous voyez donc par le petit côté et de 3/4, est comme vous le voyez une cuve toute simple, de plan rectangulaire, et le couvercle, qui lui est délicatement sculpté avec une imitation de toiture de temple. Le second sarcophage est du même genre, avec lui des bas-reliefs beaucoup plus riches. Alors il y a au total 3 sarcophages comme celui-ci, dont les flancs, dont les côtés de la cuve sont lisses. Voici en revanche 4 sarcophages sculptés. Alors le premier, qu'on appelle le sarcophage du satrape, j'y reviendrai, a des bas-reliefs sur tous les côtés, donc ils sont détaillés sur cette photo, mais vous voyez que, en revanche, le couvercle est beaucoup moins décoré. Le second est celui qu'on appelle le sarcophage lycien, nous verrons pour quelle raison. C'est à cause de la forme de son couvercle qui est ogival. Vous voyez que lui aussi est entièrement sculpté. Le troisième s'appelle le sarcophage des pleureuses et il a un couvercle qui est assez étrange puisqu'il est sculpté en partie comme un toit de temple mais surmonté de bas-reliefs qui sont taillés à même le bloc. Et enfin, le sarcophage qu'on appelle le sarcophage d'Alexandre. Alors, tous ces objets sont donc maintenant aujourd'hui au musée d'Istanbul et donc ils ne sont pas dans leur lieu de découverte ni dans leur lieu de fabrication, évidemment. Et il pose un certain nombre de problèmes, mais il s'impose aussi par leur beauté exceptionnelle que je vais essayer de souligner. Alors, pour procéder méthodiquement, je vais commencer par les sarcophages anthropoïdes. Ils sont de la même série que celui que nous avons vu au tout début de cette conférence et qui est aujourd'hui au musée du Louvre. Il s'agit d'abord de deux sarcophages qui sont égyptisants et plus qu'égyptisants puisqu'ils proviennent d'Égypte. Ils ont probablement été volés par un roi phénicien vers 525 avant Jésus-Christ, à l'époque où la Phénicie était devenue un vassal de l'Empire perse, de ce qu'on appelle l'Empire achéménide. À l'époque, c'était le roi Darius qui régnait. Et Darius s'était emparé de l'Égypte et dans son armée, il avait un corps de troupes fourni par les Phéniciens. Et donc, pour récompenser ces Phéniciens, il leur avait donné un certain nombre de privilèges à l'intérieur de l'Empire perse. Et puis, visiblement, sur place, les Phéniciens se sont servis puisqu'ils ont pris au moins ces deux sarcophages, plus celui du Louvre, qui ont été très probablement volés ou en tout cas pris, mais on peut dire volé, dans la nécropole de Saqqara. C'est très probable. Alors vous voyez sur celui qui est au premier plan, sur le couvercle, il y a des hiéroglyphes qui nous indiquent qui était le premier propriétaire, un général égyptien du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque des premiers sarcophages égyptiens. Et puis, il y a sur le pied une inscription en phénicien qui nous indique qu'il a été réutilisé donc au profit du roi Tabnit, qui était le père de Eshmounazor, que nous avons vu tout à l'heure, le propriétaire du sarcophage du Louvre. Donc nous sommes là en famille, si je puis dire, et il est probable que le sarcophage du Louvre provenait de la même nécropole, mais dont on n'avait pas compris la richesse au moment de la première fouille. Alors, ces sarcophages égyptisants, ou égyptiens plutôt, ont évidemment des ancêtres. Comme vous le savez, les Égyptiens ont commencé très tôt à procéder à la momification des corps. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, on commence à momifier le pharaon, et lui seul, pour conserver son corps, parce que comme le pharaon est un dieu, si jamais le pharaon disparaît, eh bien, le monde entier, le cosmos, va s'arrêter. Donc il était absolument indispensable de conserver son corps, son ka, son âme, si l'on peut dire, elle, on était sûr qu'elle était conservée, mais même la destruction du corps risquait d'avoir des conséquences astronomiques. Donc on momifiait les pharaons, et puis progressivement, ce privilège de la momification s'est étendu par la théorie du ruissellement, n'est-ce pas, comme on dirait en économie, au vizir, puis à la famille du pharaon, puis progressivement, de plus en plus bas dans la population, jusqu'au simple mortel que nous sommes, qui avaient, à l'époque grecque en tout cas, ont eu le droit de se faire momifier. Ce qui fait que nous avons des quantités, comme vous le savez, de cartonnage de momies qui respectent la forme initiale du corps enveloppé de bandelettes et souvent placé dans un cartonnage, voire dans un véritable cercueil, mais cercueil qui imite la forme, toujours la forme du corps. C'est cette idée d'imitation de la forme du corps qui a été reprise à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans les nécropoles égyptiennes, en faisant des sarcophages en pierre. Donc, lorsque les Phéniciens viennent au VIe siècle prendre trois sarcophages, quatre au total, en Égypte, en fait, l'invention du sarcophage est toute récente. Et ils vont s'en inspirer. Alors, je m'arrête un mot quand même sur un instant sur le mot même de sarcophage, et je fais un tout petit détour très rapide par le nord de la côte de l'Asie mineure. Nous sommes dans la région de Troie, à l'embouchure des Dardanelles, dans un site antique grec qui n'a rien à voir avec l'Égypte, mais qui s'appelle Assos. À cet endroit, il y a eu, à l'époque gréco-romaine, la constitution, donc longtemps après l'histoire que je suis en train de vous raconter, la constitution d'une nécropole, comme il y en a à Rome, à Athènes et dans toutes les villes du monde gréco-romain. Mais la particularité de la nécropole d'Assos, qui est assez logique, c'est qu'elle est faite, les sarcophages et les tombes sont faites avec la pierre locale, qui est une pierre volcanique, c'est de la diorite. Et les Asséens, les habitants d'Assos, ont assez rapidement remarqué que cette pierre avait la propriété de détruire le cadavre extrêmement rapidement, pour des raisons chimiques, certainement, qui tiennent à la nature de la pierre. Et donc ces objets, qui pour nous sont des cercueils en pierre, un sarcophage c'est un cercueil en pierre, jusque-là s'appelaient des somatothèques en grec, c'est-à-dire c'est comme bibliothèque, n'est-ce pas ? C'est l'endroit où on range non pas des livres, mais des corps, somatothèque, c'est l'endroit où on range les corps. Et quand on s'est aperçu de cette propriété de la pierre d'Assos, on a dit, mais là, c'est des véritables mangeurs de chair, puisque la chair disparaissait à toute allure. Sarcophage, c'est ça que ça veut dire en grec. Et donc, à partir d'Assos, le nom du sarcophage s'est répandu dans tout le monde gréco-romain et est passé jusque dans le français moderne. Voilà. Mais donc, à l'époque des sarcophages dont nous allons parler, on ne les employait pas, on n'employait pas encore ce mot. On les appelait encore des somatothèques. Mais bon, voilà, si c'était pour la petite histoire, nous allons continuer à les appeler sarcophages. Donc, voici ces sarcophages égyptiens. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur eux. Ce qui est, en revanche, intéressant à constater, et c'est grâce à la collection de Sidon que nous le savons, c'est qu'ils ont été imités immédiatement par des sculpteurs qui, au lieu de les faire en diorite ou en amphibolite, c'est-à-dire des pierres qu'on ne trouvait pas en Phénicie, ont fait venir du marbre de Grèce, de l'île de Paros, dans les Cyclades, et ont fabriqué à l'imitation des sarcophages égyptiens dont ils venaient de recevoir quelques exemplaires, ils ont fabriqué des sarcophages égyptisants et anthropoïdes. Alors vous avez ici un des deux autres sarcophages égyptisants du musée d'Istanbul, donc qui proviennent de cette nécropole royale de Saïda, et vous voyez surtout sur le détail à droite que bien que le personnage, le visage, est un type grec, on lui a mis la barbe, la fausse barbe, qui est caractéristique des grands personnages de l'Égypte antique. Alors ce sarcophage est très étrange, n'est-ce pas, parce que le sculpteur a poussé un petit souci de réalisme jusqu'à représenter le bas des jambes, les genoux. Donc ça s'écarte quand même un petit peu du type égyptien, c'est une variante, mais encore très marquée par son origine. Et puis il y a un deuxième sarcophage anthropoïde en marbre, toujours dans la même collection, dont je vous montre seulement le visage, et vous voyez ici un visage qui, cette fois-ci, est complètement hellénisé et ne doit plus rien à l'art égyptien. Donc on voit que les Phéniciens ont acclimaté chez eux un type de sarcophage étranger, mais ils l'ont rhabillé, si je puis dire. Et curieusement, au lieu d'en faire un sarcophage phénicien, ils en ont fait un sarcophage plutôt grec ou hellénisant, ce qui est assez étrange. Ils ont fait venir du marbre grec, et ils ont demandé aux sculpteurs d'imiter les sarcophages égyptiens. Et puis, petit à petit, ils sont devenus des sarcophages de type grec. Mais des sarcophages comme ça, on n'en trouve nulle part ailleurs qu'en Phénicie. Donc, enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, que dans les régions phéniciennes, mais on n'en trouve pas dans le monde grec. Donc, on se demande un peu comment s'est produit ce mélange, et j'y reviendrai. Alors, des sarcophages anthropoïdes, comme ceux que je viens de vous présenter, on n'en a pas trouvé seulement dans cette petite nécropole royale dont nous parlons, on en a trouvé un certain nombre dans le reste de la Phénicie, c'est-à-dire du Liban actuel et un peu en Syrie. Il y en a 14 aujourd'hui au musée du Louvre, il y en a 31 au musée de Beyrouth. C'est vous dire que c'est devenu quelque chose qui était assez à la mode. Mode qui n'était pas ouverte à tout le monde, puisqu'il fallait faire venir le marbre des Cyclades, et puis avoir des sculpteurs capables de travailler dans le style grec. Et donc on se demande si ce sont des sculpteurs phéniciens, ou bien si c'est de la main-d'œuvre grecque qui est venue aussi, ou bien si les sarcophages ont été fabriqués en Grèce et importés une fois terminés. En tout cas, visiblement, les Phéniciens étaient amateurs de ce style grec. Alors nous allons faire un petit détour par l'île de Paros, pour aller à la source du marbre au moins. Et vous savez tous où est Paros, mais j'ai éprouvé le besoin de vous mettre une flèche sur la carte pour vous la situer. Donc, la région dont nous parlons au Levant est ici, n'est-ce pas ? C'est la côte syro-libanaise, et il y a à peu près 800, peut-être 1000 kilomètres, pas tout à fait 1000 kilomètres, entre Paros et la Phénicie. Alors, il est vrai que quand on met des blocs de marbre sur un bateau, c'est le bateau qui les porte, n'est-ce pas ? Donc, c'est moins fatigant. Mais tout de même, ils ont fait un grand voyage. Alors, un petit tour à Paros, juste pour varier les paysages, n'est-ce pas ? Le moulin traditionnel des Cyclades. Au musée de Paros, on voit des sortes d'urnes cinéraires. Il y en a des dizaines, comme vous le voyez, en marbre. Le marbre de Paros est réputé de tout temps, qui étaient les premiers tombeaux grecs fabriqués à Paros. Donc, rien à voir avec ce que nous venons de voir en Phénicie. En revanche, le musée de Paros abrite également 5 sarcophages anthropoïdes ébauchés. Et malheureusement, nous n'avons que la cuve. Et nous n'avons pas le couvercle. Or, c'est le couvercle qui est évidemment le plus intéressant, puisque c'est lui qui est le plus sculpté. Et malheureusement, nous ne les avons pas. Donc, nous pouvons comprendre que les sarcophages étaient au moins ébauchés à Paros, et puis expédiés en Phénicie. Mais est-ce qu'ils étaient seulement ébauchés ou complètement sculptés par un atelier grec et expédiés terminés, ou bien ébauchés à Paros, puis expédiés et terminés en Phénicie? Nous l'ignorons complètement. Or, ça change tout, parce que dans un cas, ce sont des œuvres purement grecques, dans l'autre cas, ce sont des œuvres hybrides gréco-phéniciennes, ce qui n'est quand même pas la même chose. Imaginez, pensez au peintre le Gréco, qui est allé s'installer à Tolède, comme chacun sait, et qui venait de Crète. Est-ce un peintre espagnol ou un peintre grec exilé en Espagne? Voilà. Alors, au musée de... Donc, nous avons en tout cas la confirmation que ces sarcophages étaient au moins ébauchés à Paros. Alors, ils étaient ébauchés pour une raison très simple, c'est que ça permettait d'alléger le bloc de marbre. Une fois qu'on avait donné la forme du corps humain et creusé l'intérieur pour permettre d'y poser un corps, évidemment, le bloc pèse beaucoup moins lourd et ça facilite le transport par mer. Alors, à Paros, il y a aussi des sarcophages architecturaux. Mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de la nécropole de Saïda. Vous en avez un premier ici, qui est en plus sur un socle, que vous voyez, une sorte de podium, et la cuve du sarcophage est là-haut. Ce qui est intéressant aussi, parce que cela veut dire que le mort était placé sur une tombe surélevée. Le sarcophage n'était pas comme un cercueil enterré, il était placé en hauteur, ce qui est un peu surprenant, mais vous voyez bien qu'il a une forme parfaitement parallélépipédique qui est un peu voisine de celle des sarcophages architecturaux de Sidon. Il y en a d'autres, toujours au musée de Paros, qui sont plus intéressants parce qu'ils sont vraiment architecturaux. Donc la cuve a la forme rectangulaire et vous voyez que le couvercle esquisse une forme de toiture. Pas aussi riche, pas aussi décoré que les sarcophages qui ont été expédiés à Sidon, mais on voit que les pariens, les habitants de Paros, savaient faire et sculpter des sarcophages dans leur beau marbre local. Et ça renforce l'intensité de la question. Alors, est-ce que ces sarcophages de Sidon n'ont pas été faits ici ? Paros était non seulement une fournisseuse d'un marbre absolument magnifique et qui est toujours aussi beau aujourd'hui, hein, puisqu'il est encore exploité, un marbre à grains très fins et d'une blancheur admirable. En plus, ils ont donné naissance à des grands sculpteurs, hein, notamment Scopas, qui est un des plus grands sculpteurs du IVe siècle avant Jésus-Christ, un des plus grands sculpteurs grecs, était natif de Paros. Et il y avait plusieurs ateliers, évidemment, de sculpteurs à Paros. Donc là, on a les conditions requises pour fabriquer ces magnifiques sarcophages. Mais on n'a pas la preuve que ceux qui ont été faits à Sidon ont été sculptés à cet endroit-là. Et donc, on ne sait pas par qui ils ont été sculptés. Alors, on en a trouvé ailleurs dans le monde grec, mais pas beaucoup. Alors, je vous montre simplement celui-ci, hein, deux côtés. Malheureusement, les photos ne sont pas excellentes, mais c'est pour, bien que je n'ai pas été sollicité par l'Office du tourisme turc, c'est pour vous inciter à aller vous promener au bord des détroits, à l'embouchure des Dardanelles. Vous pouvez visiter le site de Troie, dont je n'ai pas besoin de parler, il est suffisamment connu, parce qu'à côté de Troie, il y a la petite ville de Çanakkale, où se trouve un petit musée. Et dans ce musée, il y a cette pure merveille, qui est un sarcophage architectural, qui est dans un marbre qui n'est pas le même que ceux que nous avons vus à l'instant, c'est du marbre du Pentélique, c'est-à-dire du marbre d'Athènes. Et il se trouve, lui aussi, donc, il se trouve en Asie mineure, et on ignore tout de lui, sauf que il est une des grandes merveilles de la sculpture grecque et il a été découvert il y a une dizaine d'années. Donc c'est pour ça que je vous le présente, pour vous dire qu'on a encore des choses à apprendre. Et en revanche, ici, on peut être sûr que... On a les mêmes incertitudes sur ce sarcophage, c'est-à-dire qu'il est peu probable qu'il ait été sculpté à Athènes, bien que le marbre vienne d'Athènes. Donc là aussi, nous avons un problème du même ordre. Alors j'en viens maintenant à une étude plus approfondie des plus belles pièces de la collection de Saïda, c'est-à-dire les sarcophages architecturaux. Alors je vous présente à nouveau, mais alors avec une photo un peu plus parlante, l'un de ces sarcophages architecturaux. Vous voyez la qualité du travail qui est absolument merveilleuse. Et nous avons ici représenté avec beaucoup de réalisme la toiture d'un temple avec sa bordure d'éléments en saillie qu'on appelle les antéfixes en architecture grecque. Ce sont des petits décors dont chacun couronnait une gargouille en forme de tête de lion. Gargouille qui, évidemment, sur ce sarcophage ne sert à rien, mais si vous imaginez un grand temple avec sa toiture, eh bien, vous imaginez tout aussi facilement une rangée de gargouilles tout au bord du toit pour permettre à l'eau de pluie de jaillir à l'écart. Et puis une rangée aussi d'antéfixes au sommet, hein, sur le faîte du toit, qui faisait partie aussi des décors des temples grecs. Donc nous avons vraiment la miniaturisation d'un temple grec. Le reste est d'un autre ordre, c'est-à-dire que là, nous avons des décors extrêmement fins, d'une très belle qualité, qui sont des décors qu'on s'attend à trouver plutôt sur des éléments d'architecture, mais pas sur la toiture elle-même, sur l'élévation de l'édifice. Alors, je vous en montre quelques détails. Vous avez emprunté à plusieurs de ces sarcophages. Ici, vous avez un magnifique méandre droit, hein, ce qu'on appelle souvent une grecque. Et au-dessus, vous avez cet admirable développement d'une tige de pampre, n'est-ce pas, avec des feuilles de vigne qui sont absolument délicieuses, hein, sculptées en très, très léger relief. Et puis, d'autres moulures que je ne vais pas détailler, mais qui sont toutes faites avec une finesse d'orfèvre. Hein. C'est un travail absolument admirable. Le pied des sarcophages est également sculpté. Vous voyez ici une tresse et au-dessus d'autres diverses moulures hein, qui chacune portent un nom, mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Et tout ce travail est fait avec une qualité absolument merveilleuse. C'est très, très joli. C'est un travail d'orfèvre et vous pouvez comparer ça à de l'argenterie française du XVIIIe siècle. Vous savez, avec les bordures de plats qui sont souvent agrémentés comme cela de motifs, hein, des gaudrons ou des oves, eh bien, c'est exactement ce que vous trouvez, puisque ces motifs de notre argenterie proviennent eux aussi de l'art antique. Alors, j'ajoute que sur un petit détail, c'est que sur cette photo, vous voyez que le bas du sarcophage est un peu cassé. Tous ces sarcophages ont été trouvés malheureusement brisés. Ils avaient été tous perforés violemment à coups de masse par des pilleurs, ce qui fait qu'on n'a trouvé aucun objet. Dans un des sarcophages égyptisants, le corps était entièrement conservé, absolument intact, et flottant dans un liquide qui était lui-même parfaitement conservé. Et au moment de sa découverte, Hamdi Bey s'était dit qu'il allait le conserver ainsi, de façon à pouvoir faire, dans la mesure du possible, ce qu'on appellerait aujourd'hui des analyses. Et malheureusement, le temps du déjeuner, puisque la découverte avait été faite le matin, le temps du déjeuner, les ouvriers avaient cru bien faire en évacuant tout le liquide, et le corps s'est décomposé en l'espace de quelques heures. Qui est quand même triste parce que c'était un roi de Sidon, n'est-ce pas ? Donc ça aurait été intéressant. Surtout aujourd'hui, on aurait fait certainement des tests d'ADN et on aurait étudié l'état de son bol alimentaire, certainement. Tout à fait passionnant. Voilà. Alors aujourd'hui, nous voyons ces sarcophages vides, mais dans un état parfait parce qu'ils ont été restaurés. Lorsqu'ils ont été rapportés à Istanbul, Hamdi Bey avait pris le plus grand soin de ramasser avec méticuleusement le moindre éclat de marbre dans les caveaux. Et donc, on a pu à peu près reboucher les trous et recoller aussi les têtes ou les bras des personnages sculptés qui étaient très abîmés. Et aujourd'hui, on ne s'en aperçoit absolument pas. Le travail a été fait à la perfection par ces vandales turcs, comme disaient nos collègues britanniques. Voilà d'autres détails des frontons, hein, voilà de ces sarcophages les plus simples. Hein. À gauche, vous avez des motifs végétaux stylisés, hein, des volutes sortant d'un culot d'acanthe. Et à droite, vous avez une scène de combat en haut relief, miniaturisée. Hein, c'est un travail absolument extraordinaire. Mais je vous en montrerai d'autres qui valent bien celui-là. Alors, je vous propose maintenant plutôt de regarder les sarcophages les plus beaux, c'est-à-dire les quatre sarcophages sculptés, figurés, hein, animés, qui sont de pure merveille. Alors, le premier est probablement le plus ancien. Il est daté d'après le style des sculptures et par rapprochement avec l'art grec. Toujours le même problème. Nous sommes là dans un contexte qui est quand même très grec. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'art phénicien. Sauf que, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous allons voir. Alors, ce sarcophage donc, est sculpté sur les quatre côtés. Les scènes sont entourées de magnifiques ornements. Ici, c'est une galerie, une frise de palmettes et de fleurs de lotus. Hein, mais je me précipite sur les scènes principales. Vous avez ici une scène de banquet couché, naturellement, comme on faisait dans l'Antiquité. Et comme vous allez le voir, à côté, une scène plus riche. Alors, d'abord, sur un des longs côtés, vous avez une chasse au lion. Et vous avez plusieurs animaux sauvages, dont certains ne sont pas vraiment identifiables. D'ailleurs, celui-ci, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Un croisement de lion et de lama, peut-être. Je ne sais pas si ça se faisait à l'époque. Donc ici, vous avez plutôt une lionne, d'ailleurs. Hein, c'est très, très bien détaillé, puisqu'on voit ses mamelles. Et qui est entourée donc, de deux chasseurs montés, dont l'un, que vous voyez ici, est un personnage barbu, et qui porte une coiffure qu'on ne voit pas très bien, mais une sorte de capuchon. Ça ne fait pas très grec. D'ailleurs, la présence même du lion ne fait pas très grec, même s'il y avait dans l'Antiquité encore des lions au nord de la Grèce, en Macédoine. Alors voici un détail de l'autre long côté de ce sarcophage, où l'on voit un personnage qui visiblement est important, assis sur un trône, coiffé d'une sorte de turban ou de coiffe, avec un bâton de commandement à la main. Derrière lui, on devine que ce sont deux serviteur, et devant lui, on voit partir deux attelages de chars qui partent probablement à la guerre. Vous voyez ici un des conducteurs de chars ou un des passagers qui s'apprête, qui a déjà, on ne le voit pas parce que la photo le coupe, mais il est en train de monter sur son char, et donc il est envoyé par son supérieur. Alors, la tenue de ce personnage qui est assis sur ce trône et sa pose même ne sont absolument pas grecques. La notion de trône n'existe pas dans l'art grec pour la bonne raison qu'il n'y a pas de trône, il n'y a pas de roi chez les Grecs. Nous sommes encore à l'époque où il y a la démocratie un peu partout en Grèce. Et donc, il n'y a pas de trône royal. Il faudra attendre Alexandre le Grand et son père, donc encore deux générations. Donc c'est un peu surprenant, l'iconographie nous surprend, et on peut essayer de faire des rapprochements. Et les rapprochements, nous allons les faire avec l'autre côté de la Phénicie, c'est-à-dire l'Empire perse. Vous avez ici deux représentations, alors celle-ci avec un parasol, mais j'y reviendrai à droite, hein, vous voyez, le grand roi, il s'agit de Darius ici, avec un serviteur derrière lui qui porte un parasol, vous l'apercevez peut-être, et puis ici, Darius sur son trône avec son sceptre ou son bâton de commandement, appelez-le comme vous voulez. Et on sent bien que le personnage qui est représenté sur l'image précédente a voulu se faire représenter comme son maître. Hein, je vous le disais, les Phéniciens sont les vassaux du roi de Perse, celui qu'on appelait le grand roi, avec un grand G et un grand R, naturellement. Donc, ce ruissellement, si, encore une fois, de la hiérarchie achéménide n'est pas très surprenant, mais on le trouve ailleurs dans l'Empire perse. Alors, à mi-chemin entre la Phénicie et les Cyclades et Paros, eh bien, se trouve la province de Lycie, qui est une province de l'Empire perse, qui ne faisait pas encore partie du monde grec et qui était habitée par des indigènes qu'on appelle les Lyciens. Les Lyciens avaient leur civilisation, leur art, leur écriture, leur langue, tout ce que vous voulez, un peu comme les Phéniciens. Et comme les Phéniciens, ils étaient les sujets du roi de Perse. Or, on trouve en Lycie, un monument exceptionnel qui est le monument des Néréides, qui est aujourd'hui au British Museum, qui a l'air grec. Vous le voyez là-haut, on dirait un temple grec. Mais quand on regarde le détail des bas-reliefs qui le représentent, on trouve un personnage avec la même coiffe que tout à l'heure. On ne voit plus son bâton de commandement parce qu'il est cassé, mais il est assis sur un trône. Il y a derrière lui un serviteur qui porte un parasol. Et donc, c'est un petit roi. C'est le vassal du roi de Perse, c'est le degré en dessous, mais il se fait représenter comme son maître. Donc, nous sommes ici dans un cas où nous avons des œuvres qui sont réalisées en marbre, que ce soit ici, à Xanthos, en Lycie, ou pour le sarcophage du satrape à Sidon, des œuvres qui sont réalisées dans du marbre grec, mais avec des images qui, elles, viennent de Persépolis, de Suse ou d'Ecbatane, c'est-à-dire de l'Iran actuel. Donc un croisement tout à fait surprenant. Je passe au deuxième sarcophage de Sidon, qui précisément s'appelle le sarcophage lycien. Ah, j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, le précédent, on l'appelle le sarcophage du satrape, tout simplement parce que le satrape, c'était le gouverneur de province dans le royaume perse. Voilà, c'est un nom perse. Donc, voilà le second sarcophage, qu'on appelle sarcophage lycien, donc de la région que je viens d'évoquer à l'instant, parce que justement, dans cette région, les sarcophages sont fabriqués tous avec ce curieux couvercle en forme d'ogive. Et donc, c'est ce type de sarcophage qui a été imité, bizarrement, pour un roi de Sidon, fabriqué dans du marbre grec, de Paros, et pour un roi phénicien, et par un artiste grec, lycien, phénicien, nous ne savons pas. Ce que l'on peut dire, et nous allons le voir, c'est que le style de la sculpture est purement grec. Donc, ça pose un problème. Alors, je vous montre un autre exemple deux autres exemples de sarcophages lyciens, juste pour vous convaincre qu'effectivement, en Lycie, les sarcophages ont normalement cette forme en ogive dont le fabricant du sarcophage royal de Sidon s'est inspiré. Et il y a encore plus. Vous voyez le sarcophage qui est à gauche, là, qui s'appelle. Là, il y a une petite inscription qui nous dit que c'est le personnage qui y était enterré s'appelait Khetaboura. Eh bien, le sommet de ce sarcophage, l'ogive, présente exactement le même décor que le sarcophage trouvé à Sidon, c'est-à-dire une paire de griffons affrontés. Alors, ceux-ci sont restés 2500 ans sous terre, tandis que celui-ci est resté 2500 ans exposé aux intempéries. Donc, ça explique l'état du bas-relief. Mais regardez bien ici, vous voyez la tête d'un des griffons avec ce bec et ses curieuses oreilles, on dirait des oreilles de lapin dressées, n'est-ce pas ? Et puis, vous voyez aussi les pattes et la queue qui se retournent, ce sont des détails que vous trouvez ici sur ces sarcophages. Ce sarcophage, c'est exactement le même motif. Donc il y a un mélange tout à fait extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que ici nous avons une scène qui représente des centaures et donc des personnages de la mythologie grecque. Et on se demande quelle idée a pris un roi de Sidon de se faire mettre des personnages de la mythologie grecque sur son sarcophage. Alors ce même sarcophage lycien présente sur les côtés de superbes scènes de courses de chars qui sont absolument admirables, d'abord du point de vue de la sculpture. Il y a cet enchevêtrement des jambes des chevaux est absolument admirable. On dirait un motif de frise, n'est-ce pas ? Ça fait penser à une partita de Bach transposée en sculpture. Et puis surtout, la façon dont les têtes des chevaux ont l'air d'émerger du fond du champ de la sculpture, alors qu'en réalité, chaque tête de cheval est munie d'un corps, mais le corps est à peine esquissé en relief extrêmement doux pour provoquer cet effet de contraste. À gauche, nous avons le conducteur de char et son acolyte qui sont montés sur un char qu'on ne voit pas très bien, mais on distingue une des roues du char ici. Et au centre, vous voyez aussi les deux autres personnages qui conduisent le char de droite dont on devine la roue ici. Donc la scène est vue de trois quarts. C'est d'une audace extraordinaire, dans un relief d'une très faible épaisseur, mais sur lequel on a représenté une scène qui présente une grande profondeur. Il y a quand même un détail qui cloche, si vous me permettez l'expression, c'est qu'ici, il y a un lion. Alors, normalement, quand on organise une course de chars, on ne lâche pas un lion au milieu de la piste. Ça ne se fait pas. Et si vous étiez au jumping de Bordeaux, je ne pense pas qu'on ait non plus lâché des lions au milieu de la piste pendant que les chevaux couraient. Alors, pourquoi ce lion ? Eh bien, tout simplement parce que, pardon, le sculpteur qui a fait ce bas-relief ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait. Je n'exagère pas. Il a mélangé une scène de chasse au lion et une scène de course de char. C'est assez étrange. Et vous imaginez bien que chasser le lion en char, ce n'est pas non plus très commode, parce que faire courir un char sur une piste, ça va encore assez bien. Mais les chars de l'Antiquité, dans la campagne, ils n'étaient pas très à l'aise. Surtout s'il y avait des cailloux, des rochers, ça n'allait pas du tout. Et les chars de l'Antiquité, comme vous le savez sans doute, n'avaient pas de chenilles comme les chars modernes. Donc ça ne passait pas partout. Donc il y a vraiment des incohérences dans cette scène qui font se demander qui était le sculpteur. Est-ce qu'un grec aurait fait ça ? Et en même temps, le travail est parfaitement de style grec. On ne peut pas s'y tromper. On n'a aucune sculpture en Phénicie qui ressemble à ça. Donc on se dit, ça doit être un sculpteur grec. Je passe au troisième sarcophage, qui est encore un peu plus récent. Il date de l'époque de la naissance d'Alexandre le Grand, à peu près. Donc de l'époque où régnait Philippe II, son père, Philippe de Macédoine. C'est un magnifique sarcophage, lui aussi, d'un style très très riche, qui est donc vraiment un sarcophage architectural. Là, c'est encore plus flagrant, puisqu'il y a même les colonnades. Colonnades de style ionique, avec entre les colonnes des femmes qui ont l'air d'être en deuil. Ce sont des femmes d'âge mûr qui sont voilées, ce qui veut dire qu'elles sont mariées, ce ne sont pas des célibataires, c'est un détail de la civilisation grecque qui est typique. Elles ont tout à fait des têtes, si je puis dire, en tout cas l'allure de statues grecques. Ce qui est un peu surprenant, c'est le fait de les représenter entre les colonnes. Parce que dans les vraies constructions en Grèce, c'est-à-dire dans les temples, on ne plaçait pas de statues entre les colonnes. Il n'y en a pas d'exemple. Ou plus exactement, il y en a deux, mais ce sont des exceptions, naturellement, et je vais vous les montrer. Ces deux exceptions, c'est le monument des Néréides que nous venons de voir, qui est en Lycie, où vous avez, comme vous le voyez, des statues entre les colonnes, et puis le fameux mausolée d'Halicarnasse, qui est aujourd'hui détruit, mais qui se trouvait lui aussi en, en Asie mineure, donc pas loin de la Lycie, dans l'Empire perse, et où on a mis une pléthore de statues entre les colonnes sur toute la galerie qui couronnait le monument. Donc, ceci n'est pas un usage grec. Ces deux monuments qui ont l'air d'être grecs, qui ont été réalisés par des architectes et des sculpteurs grecs, ont été faits pour des satrapes locaux qui étaient les sujets du roi de Perse, et donc qui se sont fait faire des tombeaux à leur façon, habillés en tombeaux grecs, ou plutôt habillés de sculptures et d'architecture grecque, mais avec des bizarreries, et ces bizarreries, on les retrouve donc étonnamment sur le sarcophage des pleureuses, puisque nous avons ce mélange d'architecture et de sculpture. L'architecture est grecque, la sculpture est grecque, mais la façon de les marier n'est pas grecque. Elle est plutôt orientale. Alors, ce sarcophage est aussi admirable pour deux autres raisons. La première, c'est la frise qui est au pied, dont je vais vous montrer un détail à présent. Et la deuxième, c'est la frise qui est au sommet. Et qui est assez bizarre, puisqu'elle vient écraser, pour ainsi dire, la toiture du temple. Vous vous souvenez, vous vous rappelez que sur les autres exemples, la toiture était en pente, et on avait la représentation des tuiles et des décors. Ici, nous avons une espèce de mur, de bloc, qui est venu se poser sur ce qui aurait dû être la toiture du temple. Alors commençons par la frise du bas. En voici les photos prises à la fin du XIXe siècle. On ne va pas l'étudier en détail, mais vous avez tout le déroulé de la frise des quatre côtés du sarcophage, et elle représente des scènes de chasse, chasse à divers animaux. Vous avez de nouveau ici une chasse à la lionne. Vous avez un endroit, je ne sais plus exactement où, vous avez une chasse à l'ours. Il n'y avait, je ne crois pas, beaucoup d'ours en Phénicie. En revanche, il y en a au nord de la Grèce, en Macédoine. Et puis, des scènes où on voit des serviteurs qui apportent des plats. Donc, on se doute que les animaux qui ont été chassés vont ensuite être servis. Le fait qu'il y ait une chasse au lion, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais est un détail, enfin, je dis que c'était un peu bizarre, mais c'est un détail qui est particulièrement important, j'y reviendrai, et que nous trouvons ici. Alors ça, c'est la frise miniature donc du socle. Quand je dis miniature, c'est vrai, elle mesure à peu près, dans la réalité, à peu près 15 cm de haut. Donc c'est vraiment tout petit, et c'est un travail d'une finesse exquise. Quant à la frise qui est au sommet, vous voyez qu'il est bizarrement sculptée sur cette espèce de masse de marbre qui est là un peu comme une faute de goût, qui alourdit le monument. Alors, cette frise est beaucoup moins fine, mais elle est charmante. D'abord, elle présente un détail qui est tout à fait intéressant, dont je redirai un mot, c'est qu'elle conserve des traces de peinture. Et il faut bien se dire que ces sarcophages étaient entièrement peints. Malheureusement, la peinture s'est effacée. Donc, on est très content parce qu'on voit cet admirable marbre blanc, mais dans l'Antiquité, ils étaient entièrement bariolés. Nous avons une vision déformée de l'Antiquité de ce point de vue-là, comme vous le savez, et il faut imaginer ou faire l'effort d'imaginer la Vénus de Milo entièrement peinte. Voilà, ça choque, mais c'est comme ça. Alors, cette frise a un autre intérêt, c'est qu'elle présente ici un char qui est assez bizarre. En fait, c'est un convoi funéraire de type oriental. Ce n'est pas grec. Et pourtant, les personnages sont représentés habillés en grec. Donc il y a de nouveau un mélange d'iconographie grecque et d'iconographie orientale. Et comme vous le voyez, tout ça est vraiment assez bizarre. Alors je passe au dernier sarcophage, qui est le plus beau, le plus spectaculaire et le plus récent de la série, qu'on appelle le sarcophage d'Alexandre, pour une raison que je vais vous expliquer, dont je vous montre ici une première vue un peu de trois quarts, pour vous montrer non seulement le relief magnifique qui se déroule dessus et que nous allons regarder de plus près, mais aussi parce qu'il... Il ne faut pas le négliger, l'ensemble de ces ravissantes moulures qui le décorent en bas et en haut, dont je vous ai déjà montré des détails, et qui font beaucoup, comme pour une peinture du XVIIIe siècle, où parfois on a des cadres absolument ravissants, qui à eux seuls sont des chefs-d'œuvre. Il ne faut pas oublier parfois de regarder le cadre. L'écrin vaut pas, parfois aussi intéressant que le bijou. Alors ici, l'écrin est très intéressant, mais le bijou, c'est évidemment ces bas-reliefs sculptés. Voici, alors il y a deux faces principales, les deux grands côtés, et puis deux petits côtés. Je ne vais pas les étudier tous en détail, ce serait trop long. Je vais vous donner simplement quelques images des deux principaux côtés et d'un petit côté. Sur ce côté principal, donc le long côté, vous avez de nouveau une scène de chasse. Passe-temps, et puis même nécessité dans les civilisations antiques, comme chez beaucoup de gens encore aujourd'hui, se chasser pour se nourrir. Mais en Perse, en Orient, la chasse est aussi une activité noble, et la chasse au lion est une activité particulièrement noble, puisque c'est le roi des animaux, ça l'était déjà dans l'Antiquité, à tel point que lorsque le roi de Perse chassait le lion, il élevait ces lions, d'ailleurs, dans des réserves, des gigantesques parcs naturels, dans lesquels il y avait toutes sortes de gibiers, de gros gibiers, hein, des lions, des sangliers. Et ces parcs naturels, que quelques Grecs ont eu l'occasion de voir en se rendant en Perse, les ont beaucoup impressionnés, et ça plaît d'un mot iranien qui est passé en grec ancien sous le nom de paradeisos et qui a donné en français paradis. Le mot paradis vient des jardins, enfin des réserves naturelles de l'Antiquité, où il y avait une végétation magnifique, où il y avait des canaux qui apportaient l'eau pour entretenir la végétation. Et l'idée du jardin d'Éden, n'est-ce pas, du paradis terrestre, est à quelque chose en très étroite parenté avec ces jardins des rois de Perse. Vieille tradition millénaire au Proche-Orient. La fascination pour la verdure et l'humidité dans des pays qui sont extrêmement chauds et secs. Alors donc, les rois de Perse élevaient ou faisaient élever des lions pour leur chasse. Il y avait beaucoup de chasseurs qui étaient en général autour du roi de Perse, les principaux dignitaires ou les membres de sa famille. C'était pas, naturellement, c'était des gens triés sur le volet, mais seul le roi de Perse avait le droit de tuer le lion. Ce qui veut dire que d'abord les rois de Perse étaient très courageux et que la représentation d'une chasse au lion est un symbole de royauté. Il faut faire immédiatement le rapprochement. Quand on voit une scène de chasse au lion, on pense roi, hein, chasse royale. Alors, nous avons ici une chasse au lion avec un personnage qui est en train de tuer le lion. Personnage qui est habillé à la Perse. Vous apercevez peut-être qu'il a une sorte de bonnet, de capuchon. Je ne détaille pas le reste du vêtement. Derrière lui, il y a un Grec à gauche. Ici, vous voyez un personnage nu. C'est pour la beauté du genre, si je puis dire. C'est une très belle étude de nu masculin faite par un remarquable sculpteur grec. Et à droite, vous avez encore un chasseur habillé à la grecque. Ici, derrière le lion, vous avez quelque chose qui est étrange. Vous avez un des chasseurs qui est à pied, mais qui brandit une hache. Donc, il est là par sécurité au cas où il y a un accident. Parce que quand même, les lions aiment bien manger les rois aussi. Donc là, le lion est en train de commencer à attaquer le cheval. Et donc, on voit bien que le service de sécurité est prêt à intervenir. Mais c'est vraiment en dernier recours, parce que normalement, c'est le roi qui doit achever le lion. Et puis, tout à fait à droite, il ne faudrait pas l'oublier, il y a une magnifique scène de chasse au cerf, ou un équivalent, je ne suis pas, je pense que ça ressemble à un cerf, avec encore un chasseur nu, que vous voyez à sa gauche, et un chasseur habillé à sa droite, qui brandit aussi une hache. Ce n'est pas très joli, mais la hache était visiblement une arme de chasse assez répandue, mais je ne peux pas vous dire... Chez qui? Parce que, de nouveau, là, on a l'impression que c'est une chasse royale perse, mais il y a des personnages grecs. Et il y a un lion qui fait quand même un peu plutôt perse que grec. Enfin, tout ça est assez compliqué, comme vous le voyez. Voici un des petits côtés du sarcophage. Comme ça, vous voyez un peu plus agrandi les personnages. Vous voyez beaucoup les traces de couleurs. Et ici, ce n'est plus une scène de chasse, mais c'est une scène de guerre. Et ça ne rigole pas pour parler élégamment, n'est-ce pas? Puisque vous voyez ce cavalier, ici, ce fier cavalier, qui brandit une lance. Il devait y avoir une lance en bronze doré dans sa main, et la lance ne va pas tarder à arriver sur ce pauvre soldat nu qui est déjà au sol ici. Vous avez là des soldats qui sont représentés avec une tenue perse. Alors c'est un peu bizarre, parce que les Perses étaient les ennemis des Grecs. Donc nous sommes en train d'assister au combat, semble-t-il, entre un soldat perse et un soldat grec, et c'est le Perse qui a le dessus. Alors vous me direz, nous sommes en Phénicie, donc ça tombe bien, on peut imaginer, les Phéniciens étaient les ennemis des Perses, des Grecs, pardon, puisqu'ils étaient membres de l'Empire perse, donc ils étaient les ennemis des Grecs. Très bien, mais alors pourquoi est-ce qu'ils se sont fait faire des sarcophages en marbre grec par des sculpteurs qui étaient probablement grecs? Il y a quelque chose là-dedans qui est complètement incohérent. Nous accumulons les incohérences. Je vous présente un autre détail de ces scènes de combat qui sont absolument extraordinaires pour vous permettre d'apprécier la sculpture. Cette scène du sarcophage a à peu près 80 cm de haut. Donc les personnages ne sont pas très grands, hein, ils ont 50 cm à peu près de haut. Et le travail de sculpture est extraordinaire puisque nous avons un mélange de bas-reliefs, hein, vous voyez les soldats morts ou blessés qui sont au sol, et de hauts-reliefs puisque vous avez des parties, notamment le bras ici levé de ce soldat, qui sont totalement dégagés du fond. Donc c'est un travail d'une virtuosité absolument fascinante. Et ces sarcophages, et en particulier celui-ci, sont un petit peu connus, mais pas autant qu'ils mériteraient de l'être, car ce sont des chefs-d'œuvre absolus de l'art grec de l'époque classique. Celui-ci est daté, alors vous avez vu très précisément, entre 322 et 317, ce qui est un petit peu surprenant, cette précision, alors que les autres étaient datés de façon beaucoup plus imprécise. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. J'en viens... Ah oui, encore un détail sur cette. Je reviens un peu sur la scène de chasse au lion pour que vous la voyiez mieux, n'est-ce pas? Vous voyez le chasseur principal qui, logiquement, est un roi, qui a l'air assez jeune, et qui va essayer de perforer de sa lance, malheureusement brisée, le lion, alors qu'à côté, il y a. Il y a donc, comme je disais plaisamment, le membre du service de sécurité, et vous voyez ici derrière son vêtement qui vole au vent en bas-relief derrière, absolument admirable. Il était de couleur mauve, hein, on s'en doute encore ici. Vous voyez que les Grecs n'hésitaient pas à mettre des couleurs fortes. Alors je reviens quand même, bien que ce soit une scène secondaire, sur cette chasse. Parce que quand on est habitué à l'art grec, ce qui peut-être est votre cas, et ce qui, par des formations professionnelles, est le mien, quand on voit ça, comme on dit en grec, it rings the bell, hein, ça rappelle quelque chose. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle des mosaïques de Macédoine, c'est-à-dire du nord de la Grèce, où nous avons exactement la même scène, avec des toutes petites variantes, n'est-ce pas, de position. Mais vous avez une scène de chasse au lion et une scène de chasse au cerf. Nous sommes en Macédoine, c'est-à-dire en Grèce, au nord de la Grèce. Et d'ailleurs, il n'y a pas moyen de s'y tromper, puisque ici, l'auteur de cette mosaïque, qui s'appelait Gnosis, a signé sa mosaïque en grec. Gnosis et Poiesé. Au XVIIe siècle, ça aurait été Gnosis Pinxit, peut-être, ou Fekit, plutôt, pour la mosaïque. Nous avons exactement la même scène. Et pourquoi trouver ces mosaïques en Macédoine, alors que nous avons ici une chasse au lion? Eh bien, tout simplement parce que, justement, la Macédoine avait cette exception dans le monde grec d'être un royaume. Alexandre, Philippe, mais leurs ancêtres, déjà, étaient des rois. Et à l'époque où nous sommes, ces mosaïques ont été fabriquée à l'époque de Philippe de Macédoine. On représente donc une chasse royale. Et on se dit, mais quand même, ils n'ont pas emprunté ce thème à la Perse, leurs ennemis. C'est beaucoup plus simple. Il y avait encore, en Macédoine, au IVe siècle avant Jésus-Christ, des lions. Il y en avait en Grèce à la préhistoire. Vous connaissez tous les exploits d'Héraclès avec le fameux lion de Némée. Némée se trouve dans le Péloponnèse. Et donc cette vieille légende concernant Héraclès... date d'une époque où il y avait encore des lions, même dans le sud de la Grèce. À l'époque historique, à l'époque des rois de Macédoine, il n'y en a plus que chez eux, dans le nord de la Grèce. Et donc, il y a des chasses aux lions en Macédoine qui sont elles aussi des chasses royales. Et là, il y a un point de contact entre le monde grec et le monde oriental. C'est l'idée que c'est un symbole royal. Donc, le sculpteur qui a sculpté cette chasse aux lions sur le sarcophage de Sidon savait très bien ce qu'il faisait. Il faisait une chasse au lion, et même s'il était grec, eh bien, il savait très bien représenter une chasse au lion parce que c'était un thème qui existait depuis ces mosaïques dans l'art grec. Enfin, et c'est là que les choses deviennent très difficiles, je reviens à la première scène de combat que je vous ai montrée rapidement. Il y a un personnage qui arrive ici sur son cheval. Il est tout à fait à gauche de la grande bataille et il est habillé à la grecque. C'est donc une bataille entre des Grecs et des Perses. Alors, ce n'est pas la première, puisque c'est déjà sur le petit côté, nous avions une scène de bataille entre des Grecs et des Perses. Et si on estime stylistiquement ce sarcophage au IVe siècle, on va raffiner la date dans un instant, on se dit, à cette époque-là, historiquement, où est-ce qu'on en était exactement? Eh bien, à cette époque-là, l'Empire perse était en pleine décadence et les Phéniciens avaient gardé leur petite royauté, n'est-ce pas, vassale du roi de Perse. Mais ils étaient, comme vous le commencez à le deviner, depuis deux siècles, ils étaient quand même en lien très étroit avec la Grèce. Le dernier roi phénicien connu s'appelait Abdalonimos. Il est mort en 317 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5 ans après Alexandre le Grand. 6 ans après Alexandre le Grand. Et il a eu le temps de connaître Alexandre et probablement de sympathiser avec lui, puisque Alexandre, dans sa grande conquête, a détruit l'Empire perse. Il a abattu le roi de Perse, mais il a laissé en place les pouvoirs locaux par diplomatie. Et donc, il a respecté le pouvoir phénicien. Quand on regarde bien ce personnage ici, on s'aperçoit qu'il a une coiffure assez étrange, que vous voyez peut-être assez mal. C'est une tête de lion. Il a pris une tête de lion, il s'en est fait un capuchon. Et on voit les dents, il apparaît, si vous voulez, dans la gueule du lion. Or, ceci est la façon de représenter le héros Hercule, et aussi, on le voit peut-être mieux ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir le mufle du lion ici, les yeux, et là, ici, c'est naturellement la mâchoire supérieure qui est posée sur la tête, et la mandibule, théoriquement, aurait dû passer sous entourer le cou, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez le début de la crinière du lion à l'arrière. Donc, c'est ainsi qu'on représente Héraclès, Hercule, mais aussi un de ses lointains descendants, à savoir Alexandre le Grand lui-même. Les rois de Macédoine prétendaient descendre d'Hercule, pourquoi pas. Et je vous montre ici deux portraits d'Alexandre, qui sont deux monnaies antiques, frappées sous le règne d'Alexandre, et qui toutes les deux le représentent. Alors il faut le savoir, mais ici, vous avez les dents du lion, et vous devinez le reste de la tête qui est derrière. Et ici, c'est encore plus difficile à lire, mais on aperçoit deux dents, et ici, des bouts de peau, des joues probablement du lion, qui tombent de chaque côté de la tête d'Alexandre. En d'autres termes, c'est Alexandre lui-même qui est représenté ici, sur un sarcophage d'un roi de Phénicie. Ce roi de Phénicie a été enterré, a fait faire ce sarcophage sous le règne ou après le règne d'Alexandre. Pas avant, forcément, puisqu'il a fait représenter Alexandre. Et donc, le seul candidat possible, c'est justement le roi Abdalonimos, que je viens de citer, dernier roi de Phénicie, qui a connu Alexandre et qui l'a fait représenter sur son sarcophage. Et c'est pour ça que ce sarcophage s'appelle le sarcophage d'Alexandre, évidemment. Alors qu'en réalité, il devrait s'appeler le sarcophage d'Abdalonimos II, qu'il était le deuxième à porter ce nom. Et il a été le dernier roi de Phénicie. Donc, ce sarcophage clôt la série des sarcophages de la nécropole de Sidon. Alors, encore quelques mots sur Alexandre. Vous savez qu'on a d'autres portraits de lui, notamment sur la fameuse mosaïque de la bataille dans laquelle Alexandre remporte la victoire sur le roi de Perse, qui est ici avec une espèce de tiare, c'est la bataille d'Issos. Cette mosaïque a été découverte à Pompéi, dans la Villa du Faune. Elle se trouve aujourd'hui au musée archéologique de Naples. Mais ce n'est pas un artiste italien, pompéien, qui l'a inventée. Il a copié. D'abord, cette mosaïque a probablement été fabriquée à Alexandrie et a été la copie d'une peinture qui est évidemment perdue, mais qui a été faite qui est connue grâce à Pline, par un certain Philoxénos d'Érythrée, qui avait peint un tableau extrêmement célèbre qui s'appelait « La bataille d'Alexandre ». Et grâce à cette mosaïque, nous avons donc un souvenir, une image de ce tableau où vous voyez ce magnifique portrait d'Alexandre. Et vous retrouvez donc ici toute l'iconographie royale. Alors ici, ce n'est pas Alexandre qui est représenté sur cette châsse. C'est le roi Abdalonimos, ce qui explique que ce soit un Perse, il est habillé à la Perse, qui soit sur le point de tuer le lion. Et ça explique pourquoi il y a ces croisements étranges dans ce sarcophage, puisque le sculpteur, on lui a donné un programme, et puis il s'est arrangé comme il a pu. Et donc il a mélangé les Perses et les Grecs, enfin les Phéniciens habillés à la Perse, et les Grecs, et parfois il s'est un peu trompé puisqu'il a représenté des Perses en train de tuer des Grecs. Mais comme c'était les deux seuls personnages, enfin, ethnies qu'on lui demandait de représenter. Il n'avait pas d'autre solution. À partir du moment où on lui demandait de faire des scènes de bataille, il était bien forcé de représenter des Perses et des Grecs aux prises. Alors voici donc un petit survol de ces sarcophages de Sidon. Alors vous me direz, finalement, ils n'ont plus rien de mystérieux. Bien si, le mystère, d'une certaine manière, reste presque entier. C'est-à-dire que nous pouvons affirmer que ces sarcophages sont en marbre grec. Nous pouvons affirmer qu'ils ont été faits pour des rois de Phénicie, hein, pour les rois de Sidon. Et c'est tout ce que nous pouvons affirmer. Parce que nous savons à peu près à quelles époques ils ont été faits, surtout le dernier. Nous pouvons donc plus ou moins les mettre en rapport avec les rois successifs de la ville de Sidon. Mais ça ne résout pas le problème de l'atelier qui les a fabriqués. Parce que sur deux siècles, nous avons, sans parler des sarcophages architecturaux qui posent d'autres problèmes, nous avons là quatre chefs-d'œuvre qui se succèdent à peu près de 25 ans en 25 ans, c'est-à-dire de génération en génération. Donc à chaque fois qu'un roi de Sidon mourait, on lui faisait son sarcophage. On préparait peut-être un peu avant sa mort, d'ailleurs, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes, évidemment. Mais donc cela pose un problème. Est-ce qu'il pouvait y avoir un atelier en Phénicie, à Sidon, qui était capable, une fois tous les 25 ans, de faire un chef-d'œuvre absolu de l'art grec, et puis le reste du temps se contentait de faire du... Ben rien, en fait, des sarcophages anthropoïdes qui sont à la portée du premier venu. Ça paraît un peu surprenant, parce que ça voudrait dire que pendant 200 ans, il y a eu à Sidon des génies de la sculpture grecque qui se sont succédés dans le même atelier, et qui, donc, une fois tous les 25 ans, avaient un coup de génie, et le reste du temps se contentait de modeler des petits sarcophages. Évidemment, ça ne tient pas debout. Et donc, la seule solution, mais qui est indémontrable, consiste à penser que tous ces sarcophages ont été fabriqués à Paros, dans un atelier qui, lui, assurait une continuité, parce que nous le savons, dans les ateliers de sculpture grecque, il y avait une continuité de père en fils, et pendant des générations, comme il y en avait dans les ateliers de divers métiers jusqu'à la révolution de 1789, hein, qui a abattu les confréries et empêché donc cette succession de continuer. Donc nous avons là l'exemple d'un atelier extraordinaire, d'une qualité absolument prodigieuse et malheureusement anonyme. Nous connaissons, je vous le disais tout à l'heure, des noms de quelques sculpteurs grecs de l'île de Paros. Nous en connaissons d'Athènes et d'autres endroits en Grèce. À Paros, nous connaissons Scopas, qui a participé à la sculpture du mausolée d'Halicarnasse, que nous avons aperçu tout à l'heure. Scopas vivait au IVe siècle, à l'époque où on a fait ses sarcophages, mais il ne travaillait pas du tout dans ce style-là, donc ce n'est pas lui. Mais je vous le cite parce qu'au Ier siècle avant Jésus-Christ, donc 300 ans plus tard, on trouve un Scopas à Rome, qui s'appelle Scopas de Paros, qui n'est pas le même que celui qui vivait 300 ans plus tôt. Donc c'est son arrière, etc., petit-fils. Ce qui montre bien à quel point ces ateliers étaient stables et maintenaient une tradition. Et donc, nous avons la très forte probabilité que ces sarcophages ont été fabriqués à Paros par plusieurs artistes successifs qui étaient chacun un des plus grands artistes du monde grec, mais qui sont malheureusement anonymes et le resteront toujours. Je vous remercie de votre attention.